Tech & Co,
le grand live du numérique avec François Sorel.
Allez, on va maintenant plonger dans un milieu, un secteur qui est passionnant. C'est celui de l'aéronautique et des aéroports. Et c'est vrai que on se rend pas compte, mais la technologie est en train, là encore, complètement de transformer tout ce domaine. Elle le fait d'ailleurs depuis de nombreuses années. Et on va découvrir une société qui est méconnue et qui vaut le coup, sincèrement, ce soir, d'être mise en avant dans Tech & Co. Et je suis ravi d'accueillir Sergio Colella. Bonsoir, Sergio.
Bonsoir.
Vous êtes le président de CITA Europe, la CITA qui est la société donc internationale de télécommunications aéronautiques qui existe depuis un peu plus de 70 ans, qui au départ a été conçue, créée par les compagnies aériennes de l'époque, donc Air France, British Airways, KLM, etc. etc. Et il y a toujours eu cet ADN de technologie dans la CITA, même il y a 70 ans en fait.
Oui, absolument. La CITA a été fondée en 1949 par les plus grandes compagnies aériennes mondiales pour commencer à créer le premier réseau commun de télécommunications et de systèmes d'information qui permettait à l'époque de servir les compagnies aériennes partout dans le monde.
Donc vous étiez un peu un opérateur télécom B2B pour les compagnies aériennes.
Absolument. On crée l'infrastructure partout dans le monde. Et donc dès le départ...
Et à l'époque, c'était les Telex, entre autres.
Absolument.
C'est fou quand même. Ouais. Et puis bon, voilà, la boîte a évolué. Je crois que vous avez revendu votre réseau à Orange il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la CITA ?
Aujourd'hui, la CITA, c'est le bras technologique du transport aérien. On est présent dans 200 pays. On travaille pour pratiquement toutes les compagnies aériennes mondiales. On opère dans 1000 aéroports dans le monde. On peut dire que dès qu'il y a dans un pays une compagnie aérienne ou un aéroport, il y a la CITA.
Vous êtes là. Voilà. Et vous êtes à quels endroits de l'aéroport ? Vous êtes aussi dans les avions, on en parlera peut-être après. Commençons par l'aéroport, où on peut avoir, l'ADN de ce que vous faites dans les aéroports.
Alors, au départ, c'est des systèmes et des réseaux qui sont hautement sécurisés et qui permettent à tous les opérateurs de communiquer dans l'aéroport. D'accord ? Donc, le point de départ et celui d'origine, c'est des réseaux dans les aéroports qui soient dédiés, protégés et avec un niveau de fonctionnement qui soit optimal.
Tout à fait. Ensuite, là, on parle de la communication entre la tour de contrôle et les avions ou c'est autre chose, ça ?
Alors, il y a à la fois la communication dans l'aéroport, pour faire en sorte que tous les acteurs échangent des données, échangent des informations dans tous les points de l'aéroport.
Ça, c'est plutôt un réseau informatique, on va dire.
Oui, des réseaux de télécommunications informatiques.
D'accord.
Il y a aussi les réseaux de communication de l'avion, on parlera plus tard de l'avion, hertzien, des réseaux qui permettent aux cockpit et donc au commandant de bord de communiquer avec les tours de contrôle et de communiquer avec le transport aérien. Ça, c'est le métier de départ. Petit à petit, on a rajouté de l'intelligence et on est rentré dans les systèmes d'information qui permettent de faire en sorte que lorsque vous avez une réservation, vous puissiez faire votre embarquement, que l'aéroport puisse être organisé, qu'on puisse gérer les bagages. La CITA gère informatiquement pratiquement tous les systèmes qui permettent de suivre les bagages dans le
Donc transport. Le petit code-barre qui est accroché, le petit ruban de papier code-barre qui est accroché sur la valise.
Exactement.
C'est un peu de la CITA, ça, finalement.
C'est tout à fait de la CITA.
Incroyable.
Lorsque vous avez du mal à
retrouver... Quand vous perdez vos bagages, c'est un peu de la CITA aussi.
J'allais le dire.
Non, mais c'est pour ça, je vous taquine un peu, parce que ça arrive de temps en temps.
Oui, ça arrive.
Il y a des grains de sable parfois dans
il y a des grains de sable,
dans les fonctionnements.
Il y a plusieurs milliards de bagages qui voyagent dans le monde chaque année, donc effectivement il y a ça. Et donc c'est l'ensemble des processus et des systèmes d'information qui permettent de faire en sorte que votre voyage soit le plus fluide possible. Et là la technologie peut beaucoup et les nouvelles technologies permettront de faire en sorte et permettent déjà de faire en sorte que ce voyage soit de plus en plus fluide.
Parce qu'il n'est pas tout le temps fluide encore. Cette expérience du voyageur qui rentre dans l'aéroport jusqu'à l'embarquement dans l'avion, parfois ça peut prendre du temps. Alors évidemment, les files d'attente, les checks sécurité, les documents d'identité aussi, etc. Est-ce que tout ça, dans quelques années, ça va nous paraître complètement ancestral ? Ça va bouger,
alors,
tout ça ?
La vision qu'on est en train de développer et qu'on veut implémenter, c'est que votre visage devienne votre carte d'embarquement et votre passeport. et que le téléphone mobile, le smartphone que vous avez dans votre poche devienne la télécommande du voyage. Ça, c'est la vision. La technologie est prête.
Alors, donc, ça marche.
Ça marche. C'est une question d'implémentation.
Absolument. Donc, c'est quoi? C'est des moyens, c'est des réglementations, peut-être aussi, on va y revenir. Hein, mais l'idée, pour qu'on comprenne bien, j'arrive dans l'aéroport dans quelques années, j'ai mon téléphone, je me suis enregistré pour mon billet, comme je le fais aujourd'hui. J'ai un parcours voyageur où, à aucun moment, je vais m'arrêter. Il va y avoir des capteurs, des caméras qui vont détecter que moi-même, François Sorel, vient de rentrer dans l'aéroport. Je passe un premier check sécurité, etc. Jusqu'à l'embarquement, en fait, on va me suivre grâce à la biométrie. Jusqu'à ma montée dans l'avion ?
Alors, il y a plusieurs étapes. Les étapes qui sont les plus immédiates, c'est par exemple l'embarquement. Nous avons la technologie biométrique qui vous permet de faire un embarquement dans l'avion.
Qui est testé par Air France d'ailleurs dans certains aéroports, je crois.
Et qu'on est en train d'implémenter de manière assez générale pour faire en sorte qu'il n'y ait plus la personne qui vérifie votre pièce d'identité au moment de l'embarquement, qui vérifie votre billet et qui vous donne l'autorisation à passer au moment de l'embarquement. C'est fait de manière automatique au travers de la biométrie. Biométrie qui est une technologie qui est assez répandue.
C'est un peu comme le paraf, finalement, pour sortir de l'aéroport et, enfin, ou pour embarquer quand on part à l'international. C'est un peu pareil.
C'est exactement ça. Donc, la dernière étape la plus difficile, c'est le contrôle de sécurité. D'accord. Donc là, le contrôle de sécurité, il faut enlever les éléments qui sont métalliques, etc. Ça prendra un peu plus de temps. Mais la reconnaissance du passager en tant que personne est une technologie qui est tout à fait mature. D'ailleurs, sur nos téléphones portables, nous débloquons notre téléphone grâce à notre visage dans la plupart des cas. Et parfois, nous faisons des virements bancaires avec cette même
technologie. Mais les autorités sont prêtes à accepter ce type de sécurité aussi. On voit que malgré tout, le transport aérien est un transport sensible. On le voit d'ailleurs, tous les dispositifs de sécurité.
Absolument.
Et on peut imaginer qu'aujourd'hui, la biométrie soit tellement imparable que tout le monde pourra avoir confiance.
Alors, il y a plus de 200 pays dans le monde où on opère des voyages aériens. Ça évolue à des vitesses différentes. D'accord.
Oui, d'accord.
La technologie est prête, elle est sûre, et je dirais elle est parfois même plus sûre qu'un contrôle manuel, parce que peut-être l'opérateur est fatigué ou vérifie pas bien certains éléments.
Oui.
La technologie, elle est prête et elle est sûre. Maintenant, c'est une question de réglementation. C'est très important qu'on continue à protéger les données. Donc, on suit absolument tout ce qui est gestion et protection des données.
Et ça, c'est très culturel, en fait. Il y a des continents qui sont beaucoup plus sensibles à ce sujet.
Nous,
en l'occurrence,
Europe,
nous, l'Europe et la France.
Et la France.
Alors qu'en Chine, où vous développez en fait toutes ces technologies avec un aéroport vraiment ultra moderne, un peu l'aéroport du futur, là ça pose pas de problème. C'est
ça ? Alors effectivement, dans l'aéroport de Pékin, 100% de l'expérience passager est biométrique. Et d'ailleurs, c'est assez difficile pour quelqu'un qui voyage, qui veut pas passer par là, de pouvoir suivre les procédures d'embarquement. Donc effectivement, dans certains pays, c'est déjà mis en place à 100%. Aux États-Unis aussi. On a de belles expériences en Europe aussi. Maintenant, c'est une question d'implémentation. Et je pense que les années à venir verront cette implémentation. Vous savez, le Covid, par lequel on est tous passés, a impacté de manière extrêmement forte le secteur aérien.
Ah bah, qui s'est retrouvé à zéro au printemps 2020. Hein.
Voilà, exactement. Et notre secteur a perdu 2 millions d'emplois pendant cette période. Donc au-delà du problème de l'expérience passager, on manque aussi de personnel pour faire les
c'est
contrôles.
Vrai. Et on le voit là actuellement, d'ailleurs,
oui,
avec
absolument.
La reprise et la reprise exponentielle en fait, du trafic aérien, il y a des problèmes de recrutement.
Absolument, il y a des problèmes de recrutement. J'étais à Heathrow la semaine dernière, ils doivent recruter 10 000 personnes. Lufthansa doit recruter 20 000 personnes pour faire face à la demande. Donc, comme il y a ce manque structurel...
Ça va accélérer, à votre avis, l'adoption de toutes ces technologies que vous mettez en place ?
Exactement. La technologie est le premier levier de productivité, évidemment, dans tous les secteurs, en particulier dans le nôtre. Et cette technologie transformera le transport aérien, non seulement pour l'expérience du passager, mais aussi sur plein d'autres éléments, comme le fait de réduire la consommation de CO2, l'émission de CO2, etc.
D'accord. Premier aéroport français équipé de toutes ces technologies, ça arrivera quand, à votre avis ?
Je pense que c'est moins de 5 ans.
Ah, quand même ?
Moins de 5 ans.
Oui. Moins de 5 ans,
oui, oui.
D'accord.
Encore une fois, sur tous les processus.
Roissy, Orly, enfin, ce sera les principaux, d'accord. Absolument. Mais tout le monde est OK. La réglementation française est prête à accepter
tout ça ? Elle est en train d'évoluer.
Elle est en train d'évoluer, c'est ça le frein, sans doute.
Elle est de plus en plus prête.
D'accord.
Oui, plus les investissements et la capacité à adapter l'aéroport. Mais ce sont des temps assez brefs, malgré tout.
Et qui paye, là ? C'est l'aéroport de Paris, typiquement, dans ce cas précis ? Les compagnies aériennes, c'est qui paye ?
À la fin, c'est le passager.
Oui, ça c'est clair.
Mais en même temps, c'est une productivité qui est créée, qui est donc mise au service de l'ensemble de l'industrie et donc du passager. Donc effectivement, c'est la compagnie aérienne, c'est aussi l'opérateur. Et ces investissements ont des retours sur investissement qui sont assez rapides. Donc il n'y a pas de doute.
On part dans les airs maintenant, avec parce que vous êtes aussi dans les airs, et vous vous occupez en fait de l'optimisation des vols aussi à la Cita, c'est ça ?
Oui, ça c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'en fait, comme vous le savez, IATA, qui est l'association de l'ensemble des compagnies aériennes, s'est donné à juste titre comme objectif de devenir une industrie neutre en carbone à horizon 2050.
Sous la pression, évidemment, même de l'opinion publique sur ces sujets-là.
Absolument. L'effet Greta Thunberg la nécessité de devenir une industrie qui est plus propre. Aujourd'hui, l'industrie aérienne représente environ 2% des émissions de CO2 et 3,5% des émissions globales quand on compte l'ensemble. Donc il faut réduire ça, améliorer ça. Et il y a trois méthodes pour faire ça. Des nouvelles générations d'avions. Oui.
Comme les A320 Neo, par exemple. Enfin voilà, tous ces nouveaux, ces nouvelles générations en fait d'avions.
Exactement. Ce qu'on appelle des e-kérosène ou Sustainable Aviation Fuel, donc des kérosènes verts. Et l'optimisation de chaque mouvement. L'optimisation des trajectoires, l'optimisation des routes. Vous savez qu'un avion est fait pour voler en altitude, donc en fait, le temps de roulage est très coûteux en kérosène et donc en émissions de CO2. On calcule qu'en moyenne, le temps de roulage représente 5% des consommations mondiales de kérosène. C'est incroyable.
Donc, cela dit, c'est un peu normal. Quand l'avion sort de son tube, là où on embarque, après, il faut bien qu'il se mette sur la piste. Mais ce que vous voulez dire par là, c'est qu'on peut optimiser pour que l'avion décolle à proximité de la piste la plus proche, quoi, en fait.
On peut optimiser chaque phase.
C'est ça.
Le temps de roulage, le temps de montée et de descente dans un court courrier, par exemple un Paris-Nice. La consommation dans les phases de montée et de descente, ça peut aller jusqu'à 50% de la consommation totale, parce que c'est la phase d'accélération.
C'est là où l'avion a besoin de plus d'énergie.
Le plus d'énergie. Avec du machine learning, avec le big data, en fait, on a construit des logiciels spécialisés qui permettent d'optimiser, comme pour une voiture, la consommation et le comportement de l'avion en fonction de sa trajectoire. Et donc, par exemple, pour reprendre l'exemple de Paris-Nice, un Paris-Nice sur un Airbus A320, c'est environ 3 tonnes de kérosène. On arrive à économiser 200 kilos de kérosène par trajet, ce qui fait 600 kilos de CO2 d'émissions en moins par trajet. Donc on arrive à optimiser entre 5 et 10%.
Quand on voit qu'il y a des milliers de courts-courriers tous les jours, ça représente des... Ouais. C'est incroyable. Voilà quelques-uns des exemples. Dernière petite question, on parle évidemment de coupure d'électricité avec ces fameux délestages. Alors, les politiques évidemment s'en mêlent. Est-ce qu'il y a des risques aussi de voir des aéroports paralysés suite à des coupures électriques durant les semaines qui viennent ?
On était plus pessimiste il y a 2 ou 3 mois. On l'est moins aujourd'hui. On manque de visibilité. Aujourd'hui, on n'a pas de signaux qui nous permettent de penser qu'il y aura des fermetures d'aéroports. Maintenant, il faut mesurer et monitorer la situation. C'est quelque part un peu paradoxal parce que pour réduire aussi l'empreinte en carbone d'un aéroport, en même temps, on électrifie beaucoup des moyens et des capacités de l'aéroport.
Ça peut-être aussi être une idée pour accélérer sur les énergies renouvelables.
Absolument.
Pour les aéroports qui ont en général de grandes surfaces de toiture par exemple. On peut imaginer que voilà, petit à petit, il n'y a pas une autonomie électrique, mais en tout cas une production locale.
Oui.
Ça
et
doit d'ailleurs exister déjà.
Comme on dit, un smart grid, c'est un réseau intelligent qui fasse l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité.
Sergio, c'était un plaisir de vous écouter sur tous ces sujets passionnants. Voilà, l'aéroport aéroports d'aujourd'hui et du futur avec la biométrie et la data, bien évidemment. Vous êtes le président de Cita Europe, cette société internationale de télécommunications aéronautiques. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co.
Merci beaucoup.
Bientôt 20h30, l'info éco et on revient. À tout de suite.